Sur ce, nous mettons un terme à ce bulletin. Merci.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions consacré ce soir à la vie ecclésiale, sociale et politique du cardinal Laurent Boussingo Passigna, décédé à Paris à 81 ans. La mise en onde est assurée par Lionel Lunanila Gaïma, au micro Eric Manilakiza. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ordonné prêtre en 1963, Monseigneur Boussingo est fait cardinal par le pape Benoît XVI en 2010. Cette grande figure de l'Église catholique africaine a cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Monseigneur Ambongo en novembre 2018. Dimanche 11 juillet 2021, vers 15h15 en temps universel, des cloches de la cathédrale Notre-Dame du Congo ont retenti. Selon une journaliste de l'AFP, un sacristain est venu installer l'effigie du prélat défunt à l'autel. Les Congolais et les fidèles catholiques en particulier n'entendront plus cette voix critique des régimes qui se sont succédés en RDC. Oui, le cardinal Boussingo a tiré sa révérence après avoir longtemps joué un rôle politique de premier plan. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. À Minneapolis, dans le Minnesota, le père Jean-Pierre Bongila, il est fondateur et actuel directeur du programme international de leadership à l'Université Saint-Thomas. Son dernier ouvrage est intitulé « Grounding Leadership Ethics in African Diaspora and Election Rights ». Monsieur Bongila, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Je vais essayer de traduire en français l'intitulé de votre ouvrage « Fonder l'éthique du leadership sur la diaspora africaine et les droits électoraux ». Je ne sais pas si j'ai été fidèle à la traduction.
Si, c'est bien fait, merci.
À Philadelphie, en Pennsylvanie, le professeur Jean-Claude Géréquet, d'origine ivoirienne. Il est docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Il est auteur de plus de 15 ouvrages. Je retiens notamment l'engagement politique du clergé catholique en Afrique noire, publié en 2001. Les hommes d'église et le pouvoir politique en Afrique noire, publié en 2009. Les évêques et les événements politiques en Côte d'Ivoire, 3 tomes, publié également en 2009. Bonsoir, professeur Géréquet.
Bonsoir, Eric.
Vous enseignez présentement la littérature et les cultures africaines à Bryn Mawr College, c'est à Philadelphie.
Tout à fait.
Père Bongila, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez eu à rencontrer le cardinal Boussingo? Vous êtes vous-même Congolais.
Personnellement, je n'ai jamais eu une rencontre personnelle avec lui, mais j'ai participé à certaines conférences qu'il avait tenues, notamment dans les environs de la conférence de 1980. Donc j'ai participé et il y avait des questions notamment que j'ai retenues, comme quand on lui demandait pourquoi en fait cette conférence n'avait pas bien marché, pourquoi est-ce que le Congo était toujours en train de sombrer, et on lui jetait la pierre. Mais il se dit que c'était pas tout à fait de sa faute et qu'il y avait beaucoup d'agents politiques et que lui n'était pas politicien. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai jamais eu une rencontre tout à fait personnelle avec lui, mais je le connais à distance.
Que retenez-vous de la vie et de l'action du cardinal Boussingo?
Le cardinal aura été un grand pilier le plan social et le plan politique, et surtout sur ce qui est de la démocratisation du Congo. Mais non seulement ça, nous devons d'abord commencer par savoir que c'est un homme de Dieu, c'est un ecclésiastique. Il a donné toute sa vie à Dieu et à son peuple. Et il a commencé à militer pour son peuple et dès qu'il était prêtre. C'est quelqu'un qui s'est battu notamment pour que nous ayons aujourd'hui ce que nous appelons le rite congolais de la messe. En ce moment-là, le rite avait été bien sûr initié par le cardinal Malula, mais le cardinal Malula avait un certain problème pour arriver à le mettre en place parce qu'il avait des ennuis avec Rome. Mais c'est Boussingo en ce moment-là qui était jeune prêtre qui s'était interposé pour faire un peu comme le tampon entre les deux. Et grâce à son intervention, nous nous sommes retrouvés avec un rite qui est complètement particulier. C'est ce que nous appelons le rite congolais pour la messe. Donc ça, c'est déjà son combat comme homme de Dieu, comme pasteur. mais il a continué à combattre parce qu'il voulait être prophète. Il a été prophète. Et le rôle d'un prophète qu'il a bien embrassé dans ce pays-là, c'est d'annoncer, de dénoncer et de s'engager. Il a annoncé l'évangile dans tous les coins du pays. Il a dénoncé la politique quand elle ne marchait pas bien. Déjà du temps de Mobutu et du temps de Kabila le père, Kabila le fils, et même avant de mourir avec Tshisekedi, il était toujours à l'avant-plan pour lancer, pour continuer à diriger le pays vers les confins de la démocratie. Donc c'est de cette manière-là que je le connais. Mais sur le plan intellectuel, nous ne devons pas oublier que c'est...
On va y arriver, professeur Jean-Claude. Vous n'êtes pas congolais, vous êtes chercheur ivoirien qui connaissait l'engagement de Monseigneur Monsengo. Si vous deviez lui rendre hommage, que diriez-vous?
Je voudrais dire que j'ai quand même passé 2 ans de ma vie en RDC, et précisément à Kinshasa, à Kimwenza, et de 87 à 89. Et à cette époque, c'était plutôt Malula. J'étais à Kin quand Malula est décédé, quand son corps est arrivé de Belgique. Quant à Monsengo, je ne l'ai pas connu physiquement, contrairement à Malula que j'avais rencontré en 84. À Yaoundé, au Mont Fébé, chez les moines, voilà, c'est ça. Il y avait une conférence, la première rencontre des théologiens européens et africains. Il était à cette rencontre avec des gens comme Mouchete, Nguindou Mouchete, et Monseigneur Kibangu. Je me rappelle encore cette rencontre-là. Donc c'était en 84. Je crois que c'est la seule fois où j'avais rencontré physiquement Malula. Monsengo, je ne l'ai jamais rencontré. Et quand j'étais à Kin, lui, il était plutôt à Kisangani. Il était archevêque de Kisangani. Mais c'est quelqu'un dont j'ai suivi un peu les actions. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'est le courage. Et un courage que, à mon avis, je dirais qu'il a hérité de ses aînés, comme Eugène Kabanga de Lumbashi, ou bien Monseigneur Bakole Wailunga, évêque de Kananga. Je crois que les jeunes prêtres d'aujourd'hui ne connaissent pas ces gens-là, mais déjà à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 70, hein, c'est des gens qui avaient fait preuve de courage. Hein, Kabanga avait sorti sa lettre pastorale « Je suis un homme » en 76, et Ilunga avait écrit « Chemin de libération ». Et c'est des bouquets qui avaient fait du bruit. Et quand on parle du conflit entre l'Église et Mobutu, c'est justement parce qu'il y a eu ces gens-là, ces gens courageux. Et Monsengo, je dirais qu'il s'est inscrit dans cette tradition-là du courage. Et donc voilà, c'est un homme courageux. Et je voudrais saluer ce soir ce pasteur qui a été courageux, qui n'a jamais, comment on dit ça, eu sa langue dans la poche, qui a parlé quand les intérêts de son peuple étaient vraiment menacés. Donc c'est ce courage-là que je voudrais saluer ce soir.
Oui, c'est justement en 1972 qu'il joue un rôle entre le conflit Église-État. Monsieur Bongila, parler de Monseigneur Monsengo, c'est donner l'image d'un prélat intellectuel, grand exégète, premier africain à obtenir un doctorat en écriture sainte. C'est ce que vous alliez développer tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. Il a fait d'abord ce qu'on appelait les humanités latines mathématiques au petit séminaire de Bokoro, avant d'aller au grand séminaire. Et en plus, il est allé à l'université urbanienne à Rome, et c'est là qu'il a commencé à faire les sciences publiques. Il est allé ensuite à l'université, à l'Institut biblique de Jérusalem, en 1965. Donc c'est là qu'il a appris en fait l'hébreu moderne et l'araméen. Il parle couramment 14 langues, il parlait 14 langues, et il est professeur honorifique à plusieurs universités, à la Cato, l'université d'Anvers et l'université de Louvain, et il a insisté sur sa thèse qui était sur la notion de nomos dans le Pentateuch grec. Pourquoi il tenait à cela? C'est parce que il a vu que la loi et les coutumes porté vers le comportement humain, et ce comportement humain qu'il voulait comprendre davantage pour mieux servir Dieu et servir son peuple. Il est aussi un érudit en matière de musicologie. C'est quelqu'un qui jouait vraiment bien à l'orgue. Il a lui-même donné un exemple d'un concert qu'il avait donné en 1970 quand il quittait Rome après ses études, après son doctorat pour rentrer au Zaïre en ce moment-là. Et il fallait qu'il retourne avec... Il voulait retourner avec une voiture et son directeur de thèse lui a dit « Mais vous êtes musicien, nous pouvons faire un grand concert de musique et vous allez jouer à l'orgue, les gens paieront et ça va vous servir pour votre apostolat au pays. » C'est ça qu'il a fait. Il a joué pendant 6 heures à Anvers. L'auditoire était plein et donc après ça, il s'en est allé au Congo et là, il était professeur à plusieurs universités, à l'Université nationale du Congo et professeur au Grand Séminaire Jean 23. Donc, et toute sa vie, quand il écrivait, c'était de manière tout à fait scientifique qu'il écrivait. Il a continué à étudier, il a continué à écrire. C'est un érudit et il y en a qui l'ont appelé une bibliothèque socio-politique. Voilà ce qu'il était.
En 2004, il est soupçonné d'être candidat à la présidentielle, mais il balaye tout lors d'un point de presse. Il déclare, je cite, « Je n'envie pas le pouvoir politique. Si je le voulais, je l'aurais pris en 1997 avec la chute de Mobutu, mais je ne l'ai pas fait car mon pouvoir ecclésiastique est 1000 fois supérieur au pouvoir politique. » Monsieur Bongila, comment comprendre cet engagement social et politique et comment il s'y prendre sans tomber dans la politique?
C'est justement son désir de rester dans les confins de prophète. Annoncer, dénoncer et s'engager sans être nécessairement un politicien. Il a suivi l'exemple de plusieurs prophètes. Les prophètes dans l'Ancien Testament s'engageaient dans le sort de leur peuple. Ils annonçaient Dieu, ce que Dieu devait, ce qu'il il voulait que son peuple fasse. Mais en même temps, ils n'étaient jamais eux-mêmes politiciens. Ils ne devenaient jamais roi. Ils voulaient justement donner une certaine direction de leur pays, de leur peuple. Et c'est ça que le cardinal Monsignor a fait. Il annonçait l'évangile, il dénonçait le mal dans le politique ou dans la politique. Il s'engageait avec le peuple. Lui-même a dit que son rôle, c'était d'accompagner. Et ça, c'est important en matière de leadership. C'est en cela que je vois en lui un leader transformationnel. Ça signifie qu'il accompagne son peuple, mais il n'a pas nécessairement le désir d'être président, comme il a dit lui-même. Ce que vous avez cité là est correct. S'il le voulait, c'était en 1997, quand il y avait un vacuum, Mobutu s'en allait, qu'il pouvait prendre le pouvoir. Et ce n'est pas ça qui comptait pour lui. Le pouvoir divin était plus important pour lui. Et s'il avait pris le pouvoir, peut-être qu'il n'aurait pas autant d'impact qu'il l'a eu vis-à-vis de son peuple, en étant le pasteur de son peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde le pleure. Moi, particulièrement, je le pleure. Le peuple congolais et le monde entier. Et vous, autant, vous le pleurez, parce que autrement, vous n'auriez pas eu cette émission pour parler de Monseigneur Monsignor. Vous en parlez parce qu'il a été un homme d'église, un homme de peuple, il a été un prophète.
Professeur Jereke, est-ce qu'un évêque est-il dans son rôle en critiquant les abus et dérives du pouvoir politique?
Tout à fait. Et tout à l'heure, mon confrère Bongila disait que Monsignor a été le premier exégète africain, et c'est vrai. Et je pense que pendant ses études d'exégèse, il a dû être passionné par un personnage comme Amos, qui était prophète et qui n'a pas fait la politique au sens d'engagement dans un parti politique ou dans un syndicat. Je pense que Monsignor a été certainement frappé par ce personnage d'Amos, qui était un profondeur des injustices sociales, mais qui ne cherchait pas à diriger un pays. Et donc, je crois que ce personnage d'Amos est intéressant. Et on voit la même chose avec Monsignor. C'est quelqu'un qui a assumé une fonction tribunitienne. Je rappelle que tribunitienne, dans ce mot, il y a le tribun. Et dans la Rome antique, le tribun, justement, mettait son talent au service du peuple, c'est-à-dire la plèbe. Et Monsignor, je crois qu'il était un peu comme ça. C'était une sorte d'Amos qui parlait au nom du peuple, au nom du peuple opprimé, spolié, bafoué dans ses droits. Et je crois que quand le prêtre parle au nom du peuple opprimé, spolié, il est dans son rôle. Il ne fait pas la politique politicienne. Et je pense que, comme mon frère l'a bien dit, je crois qu'il n'était pas intéressé par le pouvoir le pouvoir d'État, voilà, c'est-à-dire être maire, être député, être président de la République, ça ne l'intéressait pas. Mais il a toujours eu le souci de parler au nom de son peuple. Et comme disait Aimé Césaire, il a toujours eu le souci d'être la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ouais, et je crois que c'est important que les gens le comprennent. Quand un prêtre parle pour dénoncer les dérives, les abus d'un pouvoir, il a le droit de le faire. Il est dans son rôle. Parce que c'est ça l'évangile. Et il n'y a pas longtemps, je regardais, là, je suis tombé sur un document de la Congrégation pour le clergé qui s'appelle le Directoire pour la vie et le ministère et la vie des prêtres. Je crois que c'est en 94. Et ce document dit très bien que les pasteurs, mais ici vraiment au sens large du terme, hein, c'est pas les pasteurs évangéliques ou méthodistes, mais les pasteurs, c'est-à-dire les bergers. Donc les pasteurs ont le droit et le devoir d'exprimer des principes moraux qui gouvernent la vie sociale. Voilà, donc ça c'est dans la direction, le directoire pour le ministère et la vie des prêtres, en 94. Ouais, donc les prêtres ont le droit, lorsque dans un pays, par exemple, les richesses du pays ne profitent qu'à une minorité de personnes, et en général c'est le chef de l'État, sa famille, son clan, eh bien les prêtres, ou bien les pasteurs en général, c'est-à-dire qu'on soit pasteur ou prêtre ou évêque, on a le droit et le devoir de parler. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et je crois que Monseigneur, non seulement il a compris, mais il a vécu, c'est de ne pas briguer un poste électif, c'est-à-dire les députés, maire, président de la République. Et ça, permettez-moi de rappeler quand même une expérience malheureuse. Monsengo, en 90, un peu comme au Bénin avec Monseigneur de Souza, au Congo-Brazza avec Ernest Combo, il avait été élu pour diriger la Conférence nationale souveraine. Et ensuite, le peuple lui a renouvelé sa confiance et donc le peuple lui a confié la direction du Parlement de transition. Vous voyez, donc c'est des fonctions politiques, ça. Vous voyez? Et bon, je crois que tout le monde sait que ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce que à cette époque-là, l'homme fort du Congo, c'était Monsengo. Il était reconnu à l'intérieur et à l'extérieur, c'est lui. Parce que Mobutu était affaibli, Mobutu était vomi par le peuple. Et surtout, Mobutu s'était retiré à Guadolite. Vous voyez? Et à mon avis, l'erreur que Monsengo a commise à ce moment-là, c'était d'impliquer coûte que coûte Mobutu dans la sortie de crise. Vous voyez? Et ça n'a pas marché parce que Mobutu, justement, enfin renard, a profité de ça pour rebondir et reprendre la main. Vous voyez? Et donc, ça montre justement qu'un prêtre n'a pas forcément une expérience en politique. Et je crois que Monsengo a compris. Il a compris que vraiment, il n'était pas fait pour diriger les hommes, pour diriger un État. Vous voyez? Donc, je pense que moi, quand je vois cet homme-là, je vois vraiment un Amos. Vous voyez? Et donc, pour répondre à votre question, Eric, je crois que quand le prêtre dénonce les injustices, hein, le tribalisme, ou même l'ingérence de certains pays étrangers, hein, c'est-à-dire les anciennes puissances coloniales comme la Belgique, la France, dans les affaires intérieures des Africains, quand le prêtre dénonce ce genre de choses-là, il est dans son rôle et il doit même le faire. Et c'est ce que Monsengo a fait. Et ça, vraiment, moi, je lui tire mon chapeau.
En venant sur son rôle en tant que président de la Conférence nationale souveraine, est-ce que son échec est à situer sur son manque d'expérience éventuelle ou c'est plutôt son honnêteté qui a primé et qui ne lui permettait pas, par exemple, d'être un despote ou...
Non, moi je dirais, je dirais parler de l'inexpérience, hein. Mais je crois qu'il y avait aussi une sorte de naïveté. Parce qu'il a cru que Mobutu était sincère, que Mobutu allait jouer le jeu. Mais je crois qu'il a été naïf, parce que Mobutu, en fait, il avait son agenda, et donc, finalement, il fallait faire les choses sans lui. Voilà. Mais lui, je crois qu'il avait le souci de l'unité, voilà, il ne fallait écarter personne. Mais en fait, je crois qu'il a permis à Mobutu de rebondir, et c'est ce que j'appelle la naïveté.
Monsieur Bongila.
C'est à cela que je faisais allusion. Je remercie le confrère pour tous les points très bien fondés et bien articulés. Pour ce qui est de la Conférence nationale souveraine, c'est à cela que je faisais allusion au début de l'émission, quand j'ai participé à une conférence qu'il avait donnée à l'issue de la Conférence nationale souveraine. La question lui était clairement posée, s'il trouvait que son engagement direct dans la politique était une erreur et qu'il aurait échoué à conduire le pays vers la démocratie et comme Mobutu avait ouvert le pays à la démocratie en ce moment-là. Il a pensé que non, que ce n'était pas un échec. Il a pensé que l'engagement valait la peine. Pourquoi ? Parce qu'un prophète s'engage aussi. Non seulement il dénonce, il annonce, mais il s'engage d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il se serait engagé très profondément jusqu'à être comme le président du Parlement. Mais ce qu'il a dit, pour ce qui est de l'apparent échec, c'est que, en fait, l'erreur, lui, l'avait attribuée à Tshisekedi. Tshisekedi ne voulait pas que Mobutu appose sa signature sur le gouvernement qu'il formait. Il a passé presque 3 mois sans que le gouvernement ne soit mis en place. C'est en ce moment-là que Mobutu, voyant le vide, s'est dit « le pays ne peut pas fonctionner sans gouvernement » et il a proclamé son gouvernement à lui. Donc pour Monseigneur, en fait, la pierre devait être lancée plutôt à Tshisekedi. Lui, il n'avait jamais vu ça comme s'il avait failli sa mission. La preuve, c'est que il a continué à dénoncer. Et puis, pendant ce temps, il y avait un moment de transition où il a presque assuré le rôle de président du gouvernement, ou je voulais dire président du Parlement. Même, aussitôt que Mobutu, disons pendant la transition, pendant que Mobutu partait et tout ça, dans ce vide-là, Monsengo était comme le point de référence, comme en fait un président, qui n'était pas nécessairement un président de ce pays-là. Donc, lui n'avait pas vu ça comme un échec. La preuve, autrement, il aurait complètement abandonné de s'engager dans la politique de son pays, mais il tenait à la démocratisation de ce pays-là. C'est pour ça qu'il a continué à jouer son rôle comme pasteur et comme prophète. Donc c'est comme ça que lui-même voyait ça. Bon, à mon avis, il serait un peu mitigé, mais je me dis que peut-être qu'il y a une partie des raisons dans ce qu'il a dit. Et puis une autre chose, c'est que quand on dit qu'il tenait à ce que Mobutu soit, que sa présence continue à être là, pourtant lui, on l'avait accusé, Monsengo, de vouloir écarter Mobutu et de vouloir écarter Tshisekedi et de chercher ce qu'on appelait une troisième voie. On l'avait accusé de tous les maux dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il trouve que ce n'était pas tout à fait un échec parce que la faute ne lui incombait pas complètement.
Le cardinal Monsengo avait notamment été un des proches conseillers du pape François jusqu'en décembre 2018. Monsieur Bongila, est-ce qu'il avait l'accord et le soutien du pape François dans son action politique?
Oui, je pense qu'il avait l'accord. Bon, disons que nous ne pouvons pas tout savoir, mais il y a l'accord tacite qui devait être là. Autrement, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il allait continuer à faire. Il était parmi les 9 meilleurs conseillers du pape François. Il était parmi les 13 qui étaient au conclave pour l'élection du pape. Donc, s'il a continué ses actions dans la politique, ça signifie que il était en directe correspondance, en directe communication avec le pape. Donc je crois que le pape François l'appuyait. Il est question du changement dans un pays. Il est question, comme notre collègue l'a dit tout à l'heure, du peuple qui est en train de souffrir, de la richesse du peuple qui est en train d'être volée, le peuple qui est en train d'être matisé par ses propres dirigeants. Le prophète ne doit pas se taire. Et je crois que si le prophète parle en faveur de son peuple, le pape François doit être d'accord.
François Lemage, appuyé à l'influent archevêque émérite de Kinshasa, évoquant le courage et la contribution significative d'un homme très impliqué dans la vie politique et sociale de la République démocratique du Congo, exprimant sa tristesse dans un message de condoléances, le souverain pontife a décrit le cardinal Laurent Monsengo Passigna comme un homme épris de justice, de paix et d'unité, figure écoutée et respectée, un homme attentif aux besoins des fidèles, rempli de courage et de détermination, qui s'est toujours engagé pour le dialogue et la réconciliation de son peuple. Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue des religions. Merci à nos invités, le père Jean-Pierre Bongila de l'Université Saint-Thomas à Minneapolis. Merci.
Merci Eric.
Le docteur Jean-Claude Jereke de Bryn Mawr College à Philadelphie. Merci.
Merci Eric.
Lionel Runaniragahi m'a assuré la mise en onde. Eric Manirakiza à la présentation. Bonne soirée et à la prochaine.